Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi avec Alfred Orange, avec également Laurent Dandrieux, Emmanuel Dancourt et Pierre Rondeau avec vous aussi au 32-16 pour agir sur ce sujet de l'éducation nationale qui demande aux recteurs d'académie de faire respecter la loi face à l'augmentation des tenues religieuses à l'école. Doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence? On vous attend sur l'appli RMC et au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, nouvelle chronique dans Estelle Midi, le journal décalé de Paul Lassène qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. À 14h, 67% des Français disent souffrir d'éco-anxiété, une peur liée au changement climatique. L'éco-anxiété, est-ce le mal du siècle ou un délire de bobo? Là encore, on attend vos réactions. Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous et Johanna Chabas tentera d'aider Marina. C'est une médecin argentine qui n'arrive pas à exercer en France, qui est quand même un comble puisqu'on manque de médecins.
RMC, Estelle Midi.
Et on va revenir tout de suite dans Estelle Midi sur l'appel du jour. C'est celui de l'éducation nationale envers les recteurs d'académie. Le ministère souhaite en effet une plus grande fermeté face à la recrudescence des tenues religieuses à l'école, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Des appels à la prière ont même été observés dans certains établissements, Alfred Orange.
Oui, plusieurs notes ont été adressées aux 37 recteurs et rectrices d'académie avec un mot d'ordre, la vigilance face à cette recrudescence des tenues ostensiblement religieuses à l'école. Pour rappel, depuis 2004, la loi interdit les signes et tenues religieuses dans l'enceinte scolaire. C'est l'Académie de Paris qui a notamment été la première à alerter sur la multiplication de tenues islamiques pendant le Ramadan en avril dernier. Les rapports faisaient état d'élèves se rendant en cours en abaya ou en camis, des tuniques religieuses qui se portent au-dessus des vêtements et qui sont assimilées à des courants rigoristes de l'islam. Et l'inquiétude est ravivée en cette rentrée, Estelle, par le recteur de Dijon lui-même qui a signalé au ministère des appels à la prière dans les couloirs d'établissement ou encore des chantages à la photo entre les élèves, des défis où en fait certains élèves prennent en photo des jeunes femmes musulmanes sans voile dévoilées pour les faire culpabiliser et les humilier. Le ministre de l'Éducation ne s'est pas encore publiquement exprimé sur le sujet, mais le ministère prend ce sujet très au sérieux.
Alors, doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence? Je vais commencer avec vous, Laurent Dandrieux.
Oui, je pense qu'il faut être très très vigilant là-dessus. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que on a souvent tendance à dire, mais après tout, si les jeunes veulent s'habiller de telle ou telle façon, pourquoi pas? Comme si c'était uniquement une affaire de comportement individuel. Moi, j'ai lu une très intéressante enquête que nos confrères de l'Express ont publiée, qui montre bien que derrière ces comportements individuels, il y a tout un tas de sites islamistes plus ou moins affichés, notamment sur des sites très regardés comme par les jeunes comme TikTok, où des influenceurs islamistes expliquent aux jeunes l'importance de porter ce type de vêtements à l'école, comment recourir à des petits trucs pour que on met une ceinture par-dessus le vêtement pour dire que c'est juste une histoire de mode et que c'est pas un truc du tout religieux. Et donc il y a effectivement, on voit bien dans cette affaire qu'il y a derrière ces histoires soi-disant de comportement individuel, en fait une stratégie de conquête menée par les milieux islamistes pour transformer l'école en un milieu de propagande. Et donc je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait cette prise de conscience. Le ministre lui-même avait il y a quelques semaines, début septembre je crois, fait des déclarations un peu désinvolte en disant que tout ça était assez marginal, mais apparemment ses services,
ça l'est de moins en moins,
les services de son ministère sont plus réalistes que lui et ont pris la conscience du problème, et donc il va falloir réagir de manière très ferme.
Comment on réagit justement, Emmanuel Dancourt, à ça? Parce que il y a la loi, évidemment, mais on fait quoi de ces jeunes filles ou de ces jeunes garçons qui ne respectent pas la loi? On les renvoie chez eux? On fait quoi? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Merci de l'avoir posée. Moi, j'ai beaucoup regardé, justement, parce que c'est une vraie question. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Et il se trouve que nous, à Dijon, on a un recteur qui est spécialiste de ces questions-là, qui est arrivé au mois de mars, Pierre Engahan. Et je me suis beaucoup inspirée de ce qu'il fait, lui, de ce qu'il dit, lui, et notamment de ce qu'il a pu dire, mais pas que lui, lors d'une commission d'enquête qui avait eu lieu en 2015. Souvenez-vous, en 2015, il y a eu la fameuse minute de silence de Charlie Hebdo qui n'avait pas été respectée dans tout un tas d'établissements scolaire par un certain type d'enfants et de collégiens de lycéens. Et cette commission d'enquête était donc sur le fonctionnement service public de l'éducation, sur la perte des repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires. C'est de moins en moins marginal. Et quelqu'un comme Pierre Engahan alerte là-dessus, participe à des commissions d'enquête, mais est aussi sur le terrain, notamment à Dijon. Il y en a encore cité aussi en Bourgogne, un collège, je ne sais pas où il est, mais qui a eu des soucis. Je pense qu'à un moment, il faut prendre des mesures fermes, parce qu'il y a la loi, et puis quand la loi, elle n'est pas appliquée. C'est difficile de renvoyer les enfants. On peut peut-être accompagner avec du dialogue.
Ah bah donc c'est de la pédagogie, pas de la fermeture.
On peut faire les deux en même temps. Peut-être, on peut déjà peut-être commencer par à demander aux parents de venir discuter. Puis quand le dialogue est impossible, trouver une solution. Parce que là, on va pas.
Ah, souvent, les parents sont au courant. Ils voient quand même leurs enfants sortir de chez eux le matin.
Plus qu'au courant parce qu'ils sont à l'origine. En réalité,
certainement. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais enfin, ils voient leurs enfants sortir de chez eux. Donc ils voient comment leurs enfants sont habillés. Ils connaissent la loi.
Il faudrait être ferme, mais en même temps, dire à un enfant on va t'exclure 3 jours, je trouve ça très très dur, parce qu'un enfant il a le droit aussi de recevoir son éducation.
Oui, mais si tu contreviens à la loi,
je serai du côté de la loi toujours. Donc si tu contreviens à la loi, au bout d'un moment, un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, exclusion 3 jours, exclusion définitive.
Alfred Orange, on a des chiffres sur le nombre d'incidents justement.
Oui, repéré l'année dernière, ce qui s'en occupe, c'est le service central du renseignement territorial. 144 incidents relevés l'année dernière, surtout sur du port du voile, des ports de tenue à consonance islamiste, des refus d'aller à la piscine. Et d'après ce rapport qui a été rendu en fin d'année, il y a aussi toute l'influence des réseaux sociaux et aussi des séries Netflix. C'est pointé noir sur blanc.
Ah bon ?
Parce que ce seraient des séries qui encourageraient certaines séries qui encourageraient les jeunes à affirmer leur personnalité, leur appartenance religieuse, et que ça effectivement désinhiberait un peu les jeunes une fois dans les salles de cours.
Est-ce que la solution, Pierre Rondeau, serait pas l'uniforme? Parce que c'est vrai que c'est aussi compliqué. Non, mais il faut se mettre à la place des gens, vous savez, devant les portails des lycées. C'est-à-dire que vous voyez une fille arriver avec une robe très ample, qui va vous dire, non, mais c'est pas du tout un signe ostentatoire, c'est une robe très ample. Alors là, vous allez devoir discuter avec elle, etc. Et parlementer. Donc c'est compliqué pour vous qui êtes à la porte du lycée. Alors que si c'était l'uniforme, je veux dire, la solution, elle est simple pour tout le monde.
Vous avez totalement raison. On est parfaitement en droit de se poser la question et de se demander si ça serait pas la solution. Parce qu'on se demande quelle solution face à ces problèmes, à ces cas. Est-ce qu'on fait de la fermeté? Alors, la fermeté, est-ce qu'on pourrait interdire d'avoir accès à l'école pour ces enfants-là? Est-ce qu'on fait de la pédagogie? Mais ça prendra du temps, et on sait que malheureusement, ces cas augmentent et sont aujourd'hui une évidence. Même si on pourrait quelque peu relativiser le poids, parce que voilà, 144 cas relevés, c'est beaucoup, et je dis pas le contraire. Rappelons qu'il y a 60 000 écoles en France.
Bien sûr.
144 sur 60 000. Mais ça reste tout de même inquiétant pour ce qu'est et ce que signifie la laïcité en France et le respect de la République et des codes républicains, si je puis dire. Donc oui, la solution, l'une des solutions qui pourrait être mise sur la table et sur le dossier et sur le débat, c'est pourquoi ne pas revenir à une forme non peut-être d'uniforme ou de tenue standard ou standardisée pour accorder quelque peu de liberté à ces jeunes collégiens ou lycéens. Mais bien évidemment qu'on n'est pas vraiment, on n'oppose pas respect de la République au respect
des
convictions et des croyances.
Bien sûr.
Vous avez le droit de porter de voile dans les espaces publics ou ailleurs, dans la rue ou chez vous. Mais à l'école, il y a une loi qui existe, vous l'avez dit, depuis 2004. Vous devez la respecter. Et ce n'est pas aller à l'encontre de vos convictions religieuses de vous demander simplement de respecter une loi qui a été votée et appliquée depuis 2004.
Il y a aussi les problèmes à la cantine aussi.
Il y a aussi les problèmes sur l'alimentation
des enfants.
Servis, sur les sorties scolaires, sur les sorties à la piscine. Il y a beaucoup de problèmes. Et moi, ce qui me dérange en fait dans ce sujet, c'est qu'on entend justement les différents recteurs et différents rectorats demander ce qu'on doit faire auprès du ministère, comme si le ministère
n'avait pas la loi.
Mais oui, soit, mais justement, ça a été posé comme problématique. On connaît la loi, mais qu'est-ce qu'on fait si une fille, si une collégienne lycéenne arrive avec une tenue religieuse? On lui ferme les portes.
Concrètement, là maintenant, on fait quoi?
Et voilà. ce qui est grave de la part du ministère et peut-être de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, c'est de pas avoir pris la portée du problème, la hauteur du problème, et à anticiper finalement les réponses à apporter.
Parce que finalement, le débat sur la marginalité du phénomène est important parce que.
Une chambre d'écho par les réseaux sociaux.
Les gens qui ont peur d'agir ou trouvent trop risqué politiquement d'agir ont tendance à insister sur la relative rareté du phénomène et donc sa marginalité. Mais en fait, ce qui se passe...
Ça s'appelle le syndrome du couvercle. Oui, c'est pointé dans la commission d'enquête dont je vous parlais.
Effectivement, le problème, c'est que si on ne résout pas les problèmes à un moment... où ils sont un peu marginaux, on les laisse monter en puissance et on arrive à un stade où on ne peut plus les résoudre parce qu'il est déjà trop tard.
Vous avez des messages, Alfred.
Oui, ça réagit beaucoup. Une solution qui est proposée par Lenny qui dit « Pourquoi ne pas leur donner une surblouse qui masquerait leur tenue d'une couleur ridicule tant qu'à y être ?» Si jamais ils arrivent, voilà.
On est dans une république... Chaque homme et femme n'est libre et égaux en droit. Tout le monde devrait porter cette blouse d'une couleur exécrable.
Allez, on est avec Philippe Ballard, c'est notre invité sur ce sujet. Il est député RN de l'Oise. Bonjour Philippe Ballard.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'imagine que vous vous réjouissez, Philippe Ballard, du fait que l'éducation nationale demande une plus grande fermeté à ses recteurs d'académie.
On s'en réjouit pas, non, parce que là, on est devant... on se réjouit, mais... Vous vous souvenez, en 2004, il y a eu un rapport fait par Monsieur Aubin. Monsieur Aubin, c'était un inspecteur général de l'éducation nationale. Ça fait 18 ans. Et tout ce qu'on vit actuellement, il le pointait du doigt. Il l'écrivait noir sur blanc. Mm-hmm. Tous les ministres de l'éducation qui se sont succédés, de droite, de gauche, du centre, ont mis la poussière sous le tapis, n'en ont pas tenu compte. Alors maintenant... On paye l'addition.
Mais il y a une loi quand même, Philippe Ballard.
Oui, mais qui n'est pas respectée, la loi de 2004, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires. Et là, moi, j'écoute votre débat depuis tout à l'heure, très intéressant. Mais on se demande comment on peut faire appliquer la loi. Comment peut-on faire appliquer la loi? Si quelqu'un se présente avec des habits non conformes, parce que vous y faisiez référence, il n'y a pas que les tenues vestimentaires dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi les repas, il y a aussi le refus d'aller à certains cours où on parle du Proche-Orient, où on parle de la Shoah. Donc si on ne fait pas appliquer la loi, on baisse les bras. Donc on doit être d'une rigueur totale et absolue. Je crois que là, la pédagogie...
Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, Philippe Ballard? Ça veut dire qu'en fait, concrètement, une jeune fille qui arrive avec une robe musulmane, on lui dit tu rentres chez toi.
Oui, absolument. Et en plus, on convoque les parents. Et puis là, après, parce que c'est bien beau de donner des directives aux recteurs, mais il faut que ça suive derrière. Vous vous souvenez du hashtag pas de vague? Quand les professeurs ne sont pas soutenus, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur solution? J'écoutais Didier Lemaire avant-hier. C'est ce prof de philosophie qui exerçait à Trappes et qui travaillait sous protection, sous protection policière, et qui disait mais la situation est de pire en pire. Voilà, tout simplement. Alors est-ce qu'on veut encore beaucoup de Samuel Paty? On ferme aussi, vous faisiez référence à ces sites, mais on peut les fermer, les sites. Et puis ces gamins, ces gamines et leurs parents, parce que les parents...
On va pas fermer TikTok.
On peut fermer des comptes. Qui sont à l'origine et qui incitent ces jeunes à faire ça. On les convoque et puis on leur dit écoutez, si vous voulez, si vous êtes français, parce que on est là.
Ah oui, ça me bat.
Il y a les Français et ceux qui ne sont pas français. Non, mais il faut faire un bingo. On leur tape sur l'épaule. Vous voulez vivre en France? Faut peut-être penser à vous assimiler. Et si vous voulez pas vous assimiler, vous allez vous prendre des amendes. Et puis on peut peut-être toucher aux allocations familiales. Et pour ceux qui ne sont pas français, parce que ça c'est le conjoncturel, mais le structurel, le mal il est plus profond. On arrête le flux migratoire parce que l'origine du problème c'est ça. Et puis on exclut.
Vous avez des Français. Excusez-moi, il y a des Français qui peuvent être musulmans. Ça existe. Donc on va pas expulser les. La française qui porte le voile, vous allez la reconduire à la frontière.
C'est pour ça que je faisais un distinguo. Je vous dis, il y a ceux qui sont français, donc là, on fait appliquer la loi française, et on arrête pour... on endigue ce flux qui, tout simplement, alimente, au fil des années, parce que le regroupement familial, vous allez faire venir, donc ce sont des enfants qui vont être scolarisés.
Oui, mais on parle de combien de personnes, là?
Des centaines de milliers, madame. Ah ouais. Estelle Denis, des centaines de milliers. Quel est le flux migratoire?
Il y a
144 incidents.
Quelle est le flux migratoire en France annuel? c'est 475 000 personnes. Quand vous faites les titres de séjour délivrés, plus les demandes d'asile...
C'est pas que les musulmans, vous savez.
C'est pas que les musulmans, c'est pas que les enfants qui vont au collège ou au lycée. Il y a beaucoup d'étudiants, souvent de pays occidentaux. Dans les 400 que vous mettez en avant, les 400 000, c'était pas que des musulmans venant de pays musulmans.
Migratoire, c'est pas. Donc, à l'intérieur de ce flux migratoire, évidemment,
oui, mais
prenez les statistiques, c'est pas nous qui disons. Ça vient du Maghreb, ça vient d'Afrique.
Monsieur Ballard, vous me trompez de sujet, je suis désolé. C'est un sujet important, le respect de la laïcité. C'est un sujet très important, le respect de la loi, notamment la loi 2004. Je suis désolé, vous trompez de sujet et vous trompez dans votre argumentation. Il faut au contraire pointer du doigt les faiblesses qu'a le rectorat et qu'a le ministère pour faire appliquer la loi, mais ne pas profiter des signes religieux à l'école pour montrer du doigt les flux migratoires. Ça n'a rien à voir.
Si vous ne faites pas le lien entre les deux, vous n'avez rien compris.
Mais non.
Alors attendez, vous savez quoi? Je voudrais qu'on prenne Patrick. Patrick qui nous appelle de Lyon et qui est employé d'une société logistique. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour à vous tous. Bonjour Estelle.
Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce sujet. Patrick, pour vous, est-ce que c'est bien justement que l'éducation nationale demande une plus grande fermeté au recteur?
Effectivement, le respect de la loi sur la laïcité dans l'école est essentiel. Néanmoins, j'aimerais un peu plus de mesures quand même, dans le sens où il s'agit, en fait, bon, la communauté musulmane, on va pas se le cacher, mais il s'agit de provocateurs, en fait. Et quelle réponse peut-on apporter à des provocateurs? Si c'est la provocation, si c'est le durcissement, si c'est les sanctions, je pense pas que ça serve à grand-chose, en fait. Bien sûr, je vous le répète, hein, je suis pour la laïcité à l'école, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Mais simplement, je pense qu'on n'apporte pas les bonnes solutions. Je pense que le dialogue, avant tout, est essentiel. Quoi. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun dialogue.
On ne dialogue pas avec des provocateurs, monsieur.
Vous voulez faire quoi les provoquer, alors? Je ne sais pas, moi.
Mais non, les provocateurs...
Si c'est juste des provocateurs, tu peux dialoguer.
Ben non, ils sont là pour faire avancer une idéologie.
Mais oui, mais vous voulez la faire reculer comment?
Ben, par la fermeté, pas par le dialogue.
Ah bon, bah très bien.
Mais est-ce que par exemple,
comme solution, bah très bien, on n'avancera pas et peut-être même que la situation s'empirera malheureusement.
Mais alors attendez, Patrick, c'est quoi votre solution?
Mais j'en ai pas, je suis pas.
Ah bon,
bah, non, j'en avais une.
Oui. Bon, bah vous nous la donneriez.
Le ministère.
Et ce serait plus simple.
Ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas l'éducation nationale, les maîtresses, les maîtres, les professeurs. Ne dialogue pas avec les élèves, ne dialogue pas avec les familles. Très rarement, très rarement. Il y a vraiment une sorte de cloison, et comme si on admettait le fait accompli et que la seule réponse qu'on peut apporter, c'est la punition. Je pense que... Moi, je discute, je vais chercher mes enfants à l'école de temps en temps. Ouais. Dans l'école, il y a beaucoup de mamans et de papas musulmans. On dialogue. On essaie de comprendre l'un l'autre. On essaie de se dire, bah oui, mais ça peut-être pas. Bon, effectivement, il y a des gens qui vous diront non, qui vous.
Ouais, mais vous n'êtes pas prof, bon. Patrick, et vous n'avez pas à faire respecter la loi dans l'établissement. Non, après, moi, je comprends votre désir de pédagogie, et justement, c'est intéressant qu'on soit avec Philippe Ballard parce qu'il est sur une ligne totalement différente. Philippe Ballard, est-ce que vous entendez ce que dit Patrick quand même?
Oui, mais c'est le monde des bisounours. C'est pas, mais enfin, qui avons-nous face à nous? Je faisais référence à Didier Lemaire,
des gamins
qui parlait. Non, pas que des. Non, je rate. Il y a les parents aussi. Vous vous souvenez de Samuel Paty?
Oui.
Qui a mis le feu aux poudres. Bah oui, mais ce sont les parents qui ont instrumentalisé avec une gamine qui était un peu faible, qui a raconté n'importe quoi, et c'est parti. Enfin, on connaît la fin de l'histoire.
Oui.
Donc non, il n'y a qu'une. Seule solution, c'est la fermeté. Enfin, on peut pas dialoguer avec des gens.
Oui, mais vous nous dites pas. Oui, mais vous ne donnez pas de solution, Philippe Ballard, en fait.
Ah, mais si, moi je vous l'ai donné.
Bah non.
Moi je vous dis, on arrête. Alors vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord? Il y a le structurel et le conjoncturel. Le structurel, on arrête le flux migratoire.
On est d'accord, mais complètement.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui sont déjà là? Mais ok, Philippe Ballard, mais qu'est-ce qu'on fait?
Mais non. Les Français, ceux qui n'ont pas français.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait des Français? Ok. Qu'est-ce qu'on fait des Français? Une Française qui porte le voile, on fait quoi?
Ben je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur tape sous l'épaule. Vous voulez vous assimiler, vous voulez pas vous assimiler, ben écoutez, déjà si vous venez avec des tenues qui sont pas réglementaires, qui ne respectent pas la loi de 2004, ça sera amende, et puis après ça sera expulsion, et puis on peut aller plus loin, on peut graduer, on peut toucher aux allocations familiales, et puis dernier point mais extrêmement fondamental, vous
même si ce sont des Français, même si ce sont des Français
aussi.
Ah ben évidemment. Mais pourquoi ce serait pas possible? De toute façon, nous, nous réservons les allocations familiales aux Français. Donc fatalement.
Et celles et ceux qui ne touchent pas d'allocations, en fait quoi?
Ah bah si, s'ils ont des enfants, généralement ils en ont pas qu'un ou deux. Enfin ils en ont.
Voilà,
deux.
Non, c'est pas le monde des bisounours. Là, mais enfin franchement, vous schématisez quand même. Enfin c'est de dire ils ont tous plus de deux enfants.
Aux allocations familiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il n'y a rien, à chaque fois qu'ils proposent ça, c'est du flanc. Il y a les APL, il y a tout un tas d'aides sociales, il n'y a pas que les allocations familiales.
Mais attendez, conditionné aux ressources. Vous ciblez, monsieur Ballard, de façon caricaturale, je me permets de le dire, cette communauté musulmane qui serait forcément bénéficiaire à 100% selon vous, à vous écouter.
Non, vous vous trompez.
Il y a des conditions de revenus, il y a des familles, il y a des gens qui ne touchent pas forcément des allocations. Et donc là, ici, vous dites que quoi qu'il arrive, ces gens-là sont forcément bénéficiaires d'allocations.
Ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux, les allocations familiales ne sont pas soumises à conditions de ressources. Les
APL, si on a plus de deux enfants, il peut y avoir des familles avec un seul enfant, des enfants uniques, des familles.
Exactement.
Oui, mais enfin, vous savez.
Et là, vous dites, de façon très caricaturale, que ces gens-là, je vous cite, ont forcément plus de deux enfants. Bravo.
Généralement, ils en ont plus de.
Bravo.
Non, mais je vous renvoie un livre qui s'appelle L'archipel français de Jérôme Fourquet. Il n'est pas chez nous, c'est le directeur de l'IFOP. Et vous reprenez, il y a un passage sur les naissances avec des prénoms à consonance arabo-musulmane. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Jérôme Fourquet. Je vous renvoie ce livre.
Bah merci en tout cas Philippe Ballard d'avoir été avec nous dans Estelle Midi, député RN de l'Oise. On va terminer avec Malik qui nous appelle de Croix dans le Nord. Bonjour Malik.
Oui, bonjour.
Alors Malik, quel est votre point de vue sur la question?
Sincèrement, monsieur Ballard est un utopiste total, sincèrement.
Alors, je sais pas si on a déjà dit qu'il était utopiste.
Alors là, le mec il est là dans la stigmatisation totale. Il est là, pour lui, tous les musulmans sont là... Il bénéficie de la CAF, ne bosse pas, etc. Bon, moi, pour ma part, je suis électromécanicien. Je travaille à mon compte. Je suis chef d'entreprise. Mon père est d'une des générations qui est venue du bled, comme on dit. Donc, il est né au bled. Il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu 7 enfants. Et payé 15 000 euros par an d'impôt sur le revenu, monsieur Ballard. Donc, on n'a jamais eu la CAF. On n'a jamais grandi avec la CAF, etc. Donc nous, on est des musulmans et on est français avant tout. Bien sûr, on est français. Tout d'abord, je tiens à le dire, nous sommes français. Et pour l'instant, et pour l'histoire là des tenues, n'oublions pas que nous parlons de collégiens.
Collégiens et lycéens, oui. On parle de jeunes, c'est vrai.
Oui, pour le collégien, lycéen, on parle d'enfants. On ne parle pas de personnes adultes, consenties, etc. C'est des gens... qui sont comme dans les années 90, vous vous souvenez, à l'époque, qu'on stigmatisait les banlieues. Donc les gens étaient plus dans le mode racaille, etc. Les gens cherchaient une identité. Donc là maintenant, vu que les médias stigmatisent beaucoup les musulmans, donc les gens qui sont à peu près de cette communauté-là essayent de se revendiquer. C'est tout. Ce n'est pas une question, excusez-moi.
Oui, mais je comprends ce que vous dites.
C'est une question... de radicalisme.
Pour vous, c'est de la provocation, en fait. Il n'y a rien à voir avec la religion.
Exactement. C'est juste de la provocation. C'est des jeunes, excusez-moi du terme, c'est des jeunes merdeux qui sont là, qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. C'est juste de la provocation parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
Maintenant, c'est pas des merdeux. Ils se cherchent une identité, Malik. Ils sont pris dans l'âge où on cherche une identité. Ça passe par l'événement. Il y a l'influence des parents qui ont une religion.
C'est pas seulement ça, Emmanuel.
Excusez-moi, madame. Maintenant, je vais vous expliquer. L'éducation des parents se fait, pour moi personnellement, se fait de 0 à 16 ans. Le reste se fait à l'extérieur. Les parents n'ont plus aucun impact sur les enfants à partir de 16 ans.
Ouais, ça c'est votre avis, Malik.
Après, faut arrêter.
Je veux juste entendre. Alors, attendez, pas tous en même temps, ce que vous entendez. Attendez, Malik, deux secondes. Alors, allez-y, Laurent.
Je voudrais répondre faire une objection à Malik, c'est-à-dire que faut pas non plus idéaliser les enfants, c'est-à-dire que il y a des ados qui sont aussi des militants. Le gamin qui mais le gamin qui fait une photo de la musulmane non voilée pour la faire chanter en lui disant attention si tu ne te voiles pas tu vas avoir des problèmes, c'est peut-être un ado mais c'est aussi un militant islamiste.
Mais alors peut-être faut faire le distinguo, et c'est-à-dire en fait c'est ce que disait Emmanuel Dancourt,
discuter, faire preuve de pédagogie, parce que le petit provocateur, voilà, qui fait ça.
Mais celui qui est.
Celui-là, différents leviers. Tu l'exclues et tu le fais revenir derrière.
Je dis pas qu'il faut mettre.
Il faut qu'il fasse un mandat.
Je dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, mais là, clairement, quand on a affaire à des militants islamistes qui sont là pour installer une idéologie à l'école et qui peuvent faire ça très tôt et ça n'attend pas le nombre des années, là, on n'est plus dans le dialogue, on est dans la fermeté.
Après, peut-être qu'un rappel à la loi au tout début de l'année scolaire, ou même au retour de chaque vacances, serait peut-être pas mal pour rappeler aux élèves, justement, quels sont leurs droits, mais aussi quels sont leurs devoirs et quelle est la loi de 2004. Vous avez des messages, Alfred Orange.
Oui, et notamment un message très éclairant de Sophie qui nous écrit depuis la Guadeloupe, où elle dit ça fait plus de 30 ans que là-bas, l'uniforme est obligatoire dans les, les maternelles, dans les primaires, dans les collèges. C'est vrai aussi pour la Martinique et la Guyane. Donc voilà, c'est assez éclairant. Elle dit, voilà, personne ne se plaint. Et ce serait peut-être une manière de resserrer la cohésion sociale entre élèves là-bas. Ça se passe en tout cas sans problème. Et une partie du budget de rentrée est consacrée à l'achat du nouvel uniforme.
On va remercier Malik d'avoir été avec nous sur ce débat. Et puis, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Tenue communautaire à l'école, doit-on vraiment s'inquiéter?
C'est le plébiscite. Vous répondez oui à 90%, non à 10%.
Ah oui, donc c'est une très large majorité de oui. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On parlera de Jordan Bardella qui impute la flambée des prix de l'énergie à la politique d'Emmanuel Macron. Les franciliens qui quittent l'Île-de-France, qui vont s'installer en région, et ça crée de graves problèmes. Bah oui, il y a des grosses inégalités en termes d'argent. Et puis on reviendra également sur l'affaire Quatennens avec des extraits des grandes gueules. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h32 sur RMC, RMC Story, canal 23, et c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter les meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures avec Alfred Orange, Laurent Dandrieu, Emmanuel Dancourt et Pierre Rondeau. On va commencer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Le gouvernement est-il responsable de la flambée des prix de l'énergie? Alors qu'une vague de froid s'abat sur le pays, enfin tout est relatif, les appels à la sobriété énergétique passent mal. Les prix de l'énergie flambent, mais pour Jordan Bardella, invité d'Apolline ce matin, ces augmentations sont entièrement de la faute des mauvais choix d'Emmanuel Macron.
On n'achète plus du pétrole à la Russie, mais on achète du pétrole russe qui transite par l'Inde ou l'Arabie Saoudite et qui nous est revendu beaucoup plus cher. La vraie question, c'est notre indépendance énergétique. Et je note en la matière que les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron ont été absolument calamiteux, notamment sur l'affaissement du nucléaire. Et la fermeture de Fessenheim, l'abandon d'Astrid, la vente de nos turbines aux Américains, la faiblesse
d'investissement, ministre de l'économie.
Exactement, la faiblesse du nombre d'investissements dans le nucléaire ont entraîné aujourd'hui une situation de dépendance de la France.
La flambée des prix de l'énergie, Emmanuel Dancourt, c'est la faute d'Emmanuel Macron?
Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ils savent que je passe beaucoup de temps à taper sur Macron. Mais alors là, franchement, j'ai du mal.
On peut pas tout lui imputer.
Non, mais franchement, non, on peut pas tout lui imputer. Je trouve qu'il a bien réagi. Je l'ai soutenu dans tout ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment taper pour taper sur quelqu'un. Enfin, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Voilà, franchement.
Laurent n'a pas l'air d'avoir du mal.
Je suis d'autant plus d'accord avec lui que c'est ce que je répète sur ce plateau depuis des semaines. Oui, donc, je vais pas tout à coup me déjuger sous prétexte que Bardella l'a dit. Non, mais je suis désolé. Effectivement, il y a de la part d'Emmanuel Macron un court-termisme perpétuel qui lui fait courir après les différentes modes politiques. Et donc la mode politique était que le nucléaire s'était très mal et que l'éolien en mer allait nous sauver. On voit le résultat, c'est qu'effectivement, on a perdu depuis une dizaine d'années, pas uniquement à cause de lui.
Mais il fallait bien arrêter notre contrat avec les Russes, on est d'accord. Il avait raison quand même de faire ça.
Non, je suis pas d'accord. Mais moi, je le répète. Mais pendant ce temps-là, les Ukrainiens, ils continuent à acheter du gaz aux Russes. Pourquoi est-ce qu'on est plus ukrainien que les Ukrainiens?
Il y a plusieurs choses à prendre en considération, et je trouve que la posture politique de Jordan Bardella est caricaturale. Parce que bien évidemment, Emmanuel Macron n'est pas responsable du prix de l'énergie qui impacte tous les pays du monde. Ça m'étonnerait qu'Emmanuel Macron ait un impact sur tous les pays du monde.
Sauf qu'on était le seul pays à ne pas avoir de dépendance énergétique.
Attendez, déjà le nucléaire en France, c'est 70%. Donc quand on parle d'indépendance et de dépendance et de retrait du nucléaire, on est encore à 70%. Donc de là à croire qu'Emmanuel Macron, en 5 ans de présidence, ait provoqué une destruction totale et centrale, c'est faux. Il y en a une seule qui a été fermée. Il y en a une vingtaine qui aujourd'hui sont arrêtées ou ralenties, non pas suite à des décisions prises par Emmanuel Macron, mais suite tout simplement à la sécheresse qu'on a vécue cet été. Je vous rappelle que pour faire tourner des centrales, il faut les refroidir. Il faut de l'eau. Et les fleuves et les rivières sont à sec.
C'est pas ce que dit le président d'EDF.
C'est pas de sa faute directement.
C'est pas ce que dit le président d'EDF.
Tous les pays du monde souffrent d'inflation. La France est le pays de la zone euro qui a l'inflation la plus faible. 5,6%. Donc de là à incriminer directement Emmanuel Macron.
On a fait l'échec.
On a fait l'échec, mais justement. on soutient, on contrôle cette augmentation du prix. On ne va pas reprocher à Macron de permettre à ce qu'on ait une inflation de 5%. Alors vous allez en Angleterre, vous allez en Espagne, vous allez aux États-Unis, on est à 15% d'inflation. Ouais. Troisième point, vis-à-vis des sanctions faites aux Russes, contre les Russes. Alors oui, il y a une hypocrisie d'acheter du gaz à l'Inde ou au Moyen-Orient qui eux-mêmes l'ont acheté en Russie.
Mais oui.
C'est vrai. Par contre, ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute, si on peut dire.
Oui. C'est la faute de Poutine. Quoi.
C'est, non, c'est d'abord la faute de Poutine qui a provoqué la guerre. Vous avez raison.
Et c'est aussi on n'est pas obligé de prendre des sanctions absurdes non plus.
Oui. C'est une décision de l'Union européenne qui a été décidée et voulue par les pays de l'Union européenne.
Ce sont ces 4%, donc c'est pas ça, plus, c'est pas ça qui nous gêne.
À chaque fois, vouloir, dans cette posture politique du FN, du RN, pardon, taper sur Macron, parce que c'est le président, taper pour taper. Ayons un discours
constructif. Il reste quand même un truc, un fait incontournable, c'est que la France était exportatrice d'électricité et qu'aujourd'hui, elle
ne pour des raisons qui ne sont pas liées directement au politique.
Ça va revenir.
Bien sûr que si.
Mais non.
Et c'est ce que dit le président d'EDF. Le président d'EDF dit, on s'est désinvesti du nucléaire.
Donc, ce qu'il dit précisément, c'est que le budget alloué et consacré à la rénovation centrale a baissé. Il n'a jamais dit, que la production a baissé à cause du président Emmanuel Macron.
Si, il a dit que si un certain nombre de centrales étaient fermées aujourd'hui, c'était à cause de ces investissements.
D'accord, bon, relisez chacun vos citations et puis on reviendra demain. Apolline Matin, ce matin, les Franciliens sont-ils responsables de l'explosion des prix immobiliers en région, avec un revenu en moyenne 15% plus élevé que leurs nouveaux voisins? Les prix de l'immobilier explosent à tel point que les locaux n'arrivent plus à suivre. C'est le cas de Sylvie, une habitante des Sables d'Olonne. Elle témoignait ce matin dans Apolline Matin.
Alors moi je suis locataire, j'essaye depuis un an désespérément d'acheter un terrain pour construire. Oui. Le problème c'est que je travaille sur les sables et que pour trouver un terrain accessible au niveau tarif, il faut que je m'éloigne à plus de 30 km. Les sables sont pris d'assaut par des résidences secondaires. J'ai toujours vécu au Sable d'Olonne en location. Le problème, c'est que pour accéder à la propriété, les prix ont pris une flambée phénoménale. On fait vivre la ville et on ne peut pas y habiter.
Alors Emmanuel Dancourt, vous vivez à Dijon et vous assistez également à cet exode des Franciliens près de chez vous. Quoi.
Mais n'ayez pas l'air si surpris, c'est pas parce qu'on n'a pas la mer et la montagne que les Parisiens ne viennent pas chez nous.
C'est qu'il est surtout à l'île d'Orée.
C'est
une ville sublime, ancienne capitale des ducs de Bourgogne, très 17e, 18e siècle, très riche. On est très vite à la campagne, il n'y a pas de bouchons. Les Parisiens, ils hallucinent. Il n'y a aucun bouchon à Dijon.
Il y a moins de bouchons à Dijon que rue de Rivoli.
Nous, les bouchons, c'est des bouchons de bouteilles de vin, si vous voulez.
Voilà. Il y a plusieurs
années. Je vous ai dit que j'allais organiser un marché noir pour la moutarde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les Parisiens, ça fait longtemps en fait qu'on les voit arriver. Parce que moi, tous mes amis parisiens, chez qui je crêchais quand je venais à Paris d'ailleurs, eh ben, je ne sais plus où crêcher parce qu'ils sont tous partis. En général, c'est soit Nantes, soit Lyon, soit Dijon.
Et
dès qu'ils ont des enfants. Et quoi?
Et La Rochelle aussi.
Ah ben si tu le dis. À tes souhaits.
Oui, mais...
et en fait, le truc, c'est que je comprends, je l'ai suivi ce débat, il était passionnant d'ailleurs, sur des villes, mais plus balnéaires. Nous, à Dijon, on n'a pas le problème, honnêtement, des Parisiens qui viennent faire augmenter les loyers. On était déjà une ville plutôt dans le haut du panier en termes de loyers. Il n'y a pas vraiment le problème. Et puis, soit ils prennent les très très beaux appartements en centre-ville, soit ils vont aller s'éloigner, parce qu'on est très vite à la campagne à Dijon. Très belle campagne. Dans des ils viennent renforcer les villages.
Ils font le bonheur des commerçants.
Ils font le bonheur des commerçants. Ça permet aussi à tous ces gens-là de vendre leur appart plus cher à des Parisiens. Mais après, c'est court-termiste aussi parce que il y a des écoles qui se vident, il y a des classes qui se ferment. Elle l'expliquait très bien.
Aussi, les enfants, vous savez, ça se fait à Paris. Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire quand les Parisiens vont à Dijon ou à Lille.
Non, mais ça dépend.
Il y avait deux choses.
Ça dépend si on parle de résidences secondaires ou résidences principales.
Dans le débat, il parlait des résidences secondaires. Il parlait pas vraiment des Parisiens qui s'installent. Faut quand même le préciser.
Bah oui, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, un Parisien qui s'installe définitivement à la campagne, bah ça redynamise le territoire et l'économie locale, c'est très bien. Après, effectivement, c'est que des résidences secondaires. Moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je suis assez favorable, quand il y a vraiment une tension sur le marché de l'emploi, à ce que les municipalités puissent prendre des mesures disant, bah, au-delà d'un certain pourcentage de résidences secondaires, on ferme les vannes.
Il y a aussi d'autres qui ont pris des mesures là-dessus. Il y a des taxations sur la résidence secondaire de plus de 100% pour justement freiner, ont tenté de freiner. Mais vous me direz que certains ont les moyens de payer cette taxe, de freiner l'investissement de résidences secondaires.
C'est pour ça que je suis plus pour les quotas, moi, pour ça.
Mais ils font ça au Sable d'Olonne, les quotas, par quartier.
Et c'est ce qu'on a, c'est un phénomène qu'on a observé de façon assez importante après le Covid. Et avec l'essor du télétravail, c'est qu'on s'est rendu compte, et beaucoup de Parisiens se sont rendu compte qu'on pouvait travailler 3 ou 4 jours par semaine chez soi. Oui. Donc on prit le choix de déménager, en tout cas d'acheter, et c'est différent de déménager, oui, d'acheter une maison sur la côte ou dans une ville de province, mais de conserver leur appartement à Paris.
Oui, parce, ce qui fait
que, parce que souvent ce qui peut se passer, hein, et ce qu'on aurait, ouais, pu espérer, c'est qu'il y a un transfert, oui, entre les, enfin, les Parisiens quitteraient la, oui, ville de Paris, oui, ou la banlieue pour s'installer en province, et que les prix de l'immobilier baissent à Paris. Oui. Sauf que c'est pas ce qui arrive. Ils, non, conservent leur appartement à Paris, donc les prix de l'immobilier restent très élevés, et ils achètent en province, donc, oui, les prix augmentent.
Alors là, tu parles des riches.
Oui, ils ont les moyens.
Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un appartement, ouais, à Paris et une, clair, résidence secondaire. La plupart des gens, en fait, ils...
C'est là où en tout cas, on parle des Français, voilà, et des cadres parisiens qui ont les moyens de pouvoir acheter des maisons à Saint-Malo ou ailleurs où les, oui, prix augmentent de plus de 50% en deux ans. Mm. C'est qu'ils ont bien les moyens de pouvoir se payer, bien, ce, sûr, genre de logement.
Moi, j'ai des amis qui ont vendu un 3 pièces à Paris parce qu'ils ont eu des jumelles. Ils sont venus s'installer. Ils ont acheté
un château là-bas.
Non, une magnifique maison, une ancienne cure dans un village. Ils ont payé cash. Ils n'ont pas fait d'emprunt, quoi, pour le même prix.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Avec les prix de l'immobilier parisien, c'est sûr, voilà, que tu te retrouves avec une grosse manne d'argent. Les grandes gueules ce matin. La gauche est-elle vraiment non violente? Depuis la main courante déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens, rien ne va plus à gauche. La découverte de nombreux autres cas de violences sexistes et sexuelles perturbe l'imaginaire des électeurs de gauche. Et pour Mourad Boudjella, les orhabitants, il faut arrêter de croire que les salauds sont forcément de droite.
Ben simplement, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre aujourd'hui que les salauds ne sont pas forcément que à droite, quoi.
Voilà.
Et on a l'impression que...
Ah, mais il y a eu un très bel article là-dessus, d'ailleurs.
Quand même. Parce qu'il veut dire que quand c'est un mec de droite, c'est un salaud. Quand c'est un mec de gauche, il a peut-être des circonstances atténuantes.
Je crois que c'est Basta. Il y a eu un article, justement, où les filles se plaignent, justement, de la violence dans ces partis de gauche. Et elles disent très clairement que dans leur imaginaire, en tout cas dans leur idée, quelqu'un de gauche ne pouvait pas commettre ce genre de délit. Et c'est gravissime, quoi.
C'est dans l'imaginaire.
C'est gravissime. Et c'est vrai que Olivier Faure, qui se targue d'être le Parti socialiste responsable et celui qui a entre guillemets sauvé la gauche en s'alliant avec la NUPES, je pense que il a franchi un cap où plaire à la NUPES et en tout cas s'intégrer dans la NUPES lui fait dire n'importe quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laurent Dandrieux?
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est assez extraordinaire de découvrir Manuel Bompard, inventer tout à coup le sens de la nuance, parce qu'il s'agit d'un de ses camarades. On se dit effectivement que si c'était agi d'une gifle donnée par, je dis ça au hasard, je n'incrimine personne, Éric Ciotti ou Éric Dupond-Moretti, il aurait probablement été moins nuancé dans sa réaction. Après, sur le fond de ses propos... moi, je pense quand même que il faut quand même essayer de comprendre ce qu'il raconte. C'est-à-dire que une gifle est un acte de violence.
Là, vous parlez des propos de Manuel Bompard,
qui dit qu'effectivement, une gifle n'est pas un viol. Hein, c'est bien cela qu'il a dit. Une gifle est un acte de violence. Un viol est un acte de violence. Mais ce qu'il
dit est un crime.
Et en plus,
un viol est un crime.
Et en plus, un crime. Et donc, ça veut dire que au sein de cette catégorie des actes de violence, il y a des degrés de gravité et donc des degrés d'opprobre que le fait d'avoir commis ces actes jette. Pour bien être clair sur ce que je veux dire, je voudrais faire un petit dézoomage à propos d'un exemple qui a été fourni par Alain Finkielkraut sur Elie Wiesel. Elie Wiesel, donc rescapé des camps de la mort, a été accusé par une journaliste américaine, je crois, de lui avoir mis une main aux fesses. Et la personne qui a dénoncé ça disait « Mais comment quelqu'un qui a été rescapé des camps de la mort peut-il à son tour devenir un bourreau ?»
C'est quoi le lien ?
Comme si, ouais, c'était deux fautes de la même gravité. Et donc je pense qu'effectivement, c'est un des effets pervers du mouvement MeToo, c'est que en voulant protester contre, à juste titre, contre les violences faites aux femmes, on a eu tendance à mettre tout dans le même panier, comme si tout était de la même gravité. Et je pense qu'il n'est pas, mauvais de se calmer un peu sur ce plan-là.
Le problème dans ce que tu dis, donc on fête les 5 ans de MeToo cette année. Je rappelle que je suis la présidente de MeToo Media.
Oui.
Et le problème dans ce que tu dis, c'est que en fait, les violences, donc là on est sur dans le cadre d'Adrien Quatennens sur des violences conjugales. En fait, elles commencent même pas avec une gifle, les violences conjugales. Elles commencent avec des paroles. Il y a les violences verbales. Après, il y a les violences psychologiques. Et puis après, ça dérive vers les violences physiques. Moi, je sais pas ce qu'il y a eu avant cette gifle. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce qu'on a entendu au GG ce matin, c'était intéressant parce que, grosso modo, quand tu es de gauche, t'es plus gentil, enfin c'était tellement caricatural. Quand t'es de gauche, t'es plus généreux. Quand t'es de gauche, t'as le cœur sur la main. Quand t'es de gauche, t'es plus gentil. Et
c'est l'imaginaire collectif.
C'est ça. C'est l'imaginaire collectif. C'est exactement ça. Et ce qui a été quand même très très compliqué, je trouve, pour LFI, c'est la réaction de Mélenchon, quoi. Mmh. Qui a tergiversé, non, mais oui, parce qu'il était en train de perdre un de ses meilleurs collaborateurs.
Il y a le côté de gauche, pas de gauche,
LFI est en train de s'effondrer,
nous,
quoi.
Quand même aussi, hein.
Ouais. Non, mais tu vois. Et donc voilà. Donc la gifle, c'est une gifle, qui s'en est prise, c'est que c'est quand même très violent, une gifle, faut pas minimiser, honnêtement. Et puis, c'est ce que ça peut aussi déclencher derrière. Après, la punition n'est pas la même, parce que je rappelais que le viol est un crime. La gifle n'est pas un crime.
Alors, on reviendra justement sur les propos de Mel Bompard dans les immanquables à la fin de cette émission. Dans un instant, le journal décalé de Paul Lassen qui va faire le tour de la presse quotidienne régionale. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story, et nous sommes vendredi. Et le vendredi, dans Estelle Midi, eh bien c'est le journal décalé de Paul Lassen. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le journal décalé.
Et Paul Lassen, vous avez fait pour nous le tour de la presse quotidienne régionale cette semaine.
Oui, bonjour à tous, c'est Estelle, je vais commencer par trahir un secret. Je vais dire la vérité aux auditeurs. Vous êtes chaque matin à la recherche d'une bonne affaire immobilière. Et bien ce matin, Le Parisien, peut-être qu'on vous a offert l'affaire du siècle.
Ah bon?
Je vous emmène dans le village de Bernay, en Normandie.
Mais oui.
Visite guidée dans l'ancienne maison d'Edith Piaf, qui est sur le marché, elle est à vendre.
Mais non.
Et c'est Marie-Claude qui vit dans cette maison, qui nous fait visiter. Alors cette maison est maintenant... On y vient. Cette maison est maintenant divisée en 3 appartements. Cette maison a donc été cassée. C'était une ancienne maison close avant même qu'Edith Piaf y vive.
Oui,
avant même.
Si ça avait été pendant, on le saurait.
Oui, on l'aurait su. 200 mètres carrés au total. À l'époque, il y avait une grande salle avec un grand piano, beaucoup de chambres, une maison historique qui, depuis le film d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard, oui. La Môme, a été la cible de plein de touristes. Des cars s'arrêtaient devant, c'était un enfer. Estelle, vous m'avez posé la question, le prix?
Alors,
pour 200 mètres carrés, 3 appartements, 285 000 euros.
Oh, seulement ?
En Normandie.
Est-ce qu'on peut payer en bitcoin ?
La mer est loin ou pas ?
Pas encore. Non, alors, on est un peu loin de la mer. C'est pas la Normandie.
On est dans les terres, ok.
Vous ne pourrez pas aller passer
à la plage. Je vais réfléchir, Paul.
D'accord, très bien. Mais on se tient au courant ?
Exactement.
Allez, on passe à l'info suivante. nous avons des parents autour de la table et Ouest France a peut-être trouvé la solution pour vous, pour que vos enfants s'intéressent à la science. Un concours, tout ce qu'il y a de plus sérieux, attention, mais qui a trouvé le moyen pour faire parler de lui, récompenser des scientifiques aux recherches les plus farfelues. Ça s'appelle Ignobel, en référence au nom ignoble. Et Nobel, bravo Estelle. Oui. La 15e édition avait lieu la semaine dernière et au palmarès, vous serez par exemple ravis d'apprendre que lorsque deux personnes ont un coup de foudre, immédiatement, les rythmes cardiaques se synchronisent. En biologie, oui, absolument.
Oh, c'est dingue.
En biologie, des scientifiques ont étudié la manière dont la constipation liée à la perte accidentelle de leur appendice piquant modifie les perspectives d'accouplement des scorpions. C'est-à-dire, si on vous enlève l'appendicite, par exemple, si vous étiez un scorpion.
Mais je n'ai plus l'appendicite.
Et surtout, vous n'êtes pas scorpion.
Non, en plus.
Bon, ben voilà, bon, on va passer à l'info suivante.
Bélier, alors.
Un petit dernier, et ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. C'était pas le bon moment pour envoyer le petit jingle, mais c'est pas grave. Un prix d'économie a été remis à 3 Italiens qui ont expliqué mathématiquement pourquoi le succès revient le plus souvent aux plus chanceux et non aux plus talentueux. On a donc la preuve scientifiquement que les plus chanceux ont plus de chance que les plus talentueux.
Oui, c'est bien ça, comme
c'est pas mal.
Ça a demandé beaucoup de recherches. Je suis sûr que ce monsieur a une bourse, une énorme bourse.
Vous avez peut-être des infos que je n'ai pas. Un feuilleton qui anime la presse régionale depuis des semaines, une véritable guerre des régions. À la rentrée, un classement publié par plusieurs journaux faisait état d'un véritable camouflet pour la ville de Marseille, puisque Reims et Toulouse compterait plus de terrain de pétanque que la cité phocéenne.
Mais non.
Mais la Provence a remis les pendules à l'heure. En tout cas, sa vérité, puisque la ville de Marseille est allée recenser le nombre de terrains de pétanque. Il n'y en a pas 77, non. Il y en a 144, le double, plus du double. Du coup, Marseille, cocorico.
Oui.
D'après Marseille, Marseille est premier au classement.
Oui, mais d'après Marseille, il faut quand même un peu se méfier, quoi.
Oui, mais bon, on peut les croire.
Ok, l'honneur est sauf.
Je vous parle d'un fait divers maintenant. Je vous emmène à Villefranche dans le Rhône et c'est le Progrès qui nous raconte l'histoire d'un couple. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 avril dernier. Un homme qui est rentré d'une soirée un peu éméchée commence une dispute avec sa compagne. Le ton monte, un peu de geste d'énervement des deux côtés, et là l'homme va complètement vriller puisqu'il se rend dans la cuisine et revient non pas avec un couteau de boucher, non pas avec un rouleau en pâtisserie.
Quoi, un tire-bouchon ?
Non, avec une côte de porc. Une côte de porc qu'il a violemment lancée sur sa compagne. Un geste qui a mis fin à la dispute, hein, ça a été efficace visiblement.
C'est assez rare comme...
Mais le monsieur est passé en justice cette semaine. Du coup, il est en prison à 26 ans.
Et mais il a dû la lancer très fort, dis donc.
Il a dû la lancer fort. Et donc, connard, puisque c'est son prénom, à 26 ans, est depuis mardi incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche.
C'est heureusement qu'il n'y avait pas de côte de bœuf dans le frigo. Parce
oui,
que
ça fait plus mal plus que la, ouais, la côte de porc.
C'est pas étrange, vos brèves, quand même.
Oui. On termine avec une petite gastronomie.
Oui.
On a le temps.
Allez, oui. Mais rapido.
Une question que vous êtes tous posés autour de la table, et tous nos téléspectateurs et auditeurs se sont forcément posés. C'est West France qui répond. Pourquoi trouve-t-on du potage à la tomate dans toutes les machines à café?
Sauf celle d'RMC, je suis dégoûtée parce que moi j'adore ça.
Bah, je
bah oui, j'ai vérifié. Mais j'ai jamais compris, moi, en fait.
Je vais essayer de vous parce donner des éléments de réponse. Une des sociétés qui commercialise ce doux breuvage répond simplement. Ben, en fait, on la commercialise parce qu'elle est bue.
Bah, évidemment.
Oui, il faut savoir que sur chaque machine qui en distribue, il y en a entre 2 et 5 par jour. Alors, qui sont ces gens?
Moi, j'en connais pas. Ça pourrait être moi s'il y en avait à RMC. D'ailleurs, je pousse un appel, voilà, à la direction. Outre le fait que l'americano soit à 35 centimes, ce qui est une honte.
Mais il faut prendre le double expresso qui est gratuit.
Mais je n'aime pas. Mettez du potage à la tomate dans nos distributeurs.
Vous savez
ça,
quoi,
c'est un vrai combat. Vous savez, on a des combats qu'on mérite.
À la sortie du plateau, je monte tout de suite au troisième pour alerter tout le monde.
Merci beaucoup, Paul Lassène. Le journal décalé, c'est tous les vendredis dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera de ces Français qui souffrent d'éco-anxiété. Est-ce que l'éco-anxiété, c'est le mal du siècle ou est-ce que c'est une tendance de bobo? On attend toutes vos réactions au 32-16. À tout de suite sur RMC.